MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Hello à tous et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir que l'appel sur ta vie est plus grand que ce que tu ne le penses. Et on est ravis de terminer cette semaine avec vous. Et je suis aujourd'hui avec Annabelle et Aurélie. Bonjour mesdames.
Bonjour Yveline.
Savez-vous que l'appel sur votre vie est plus grand que vous ne le pensez?
On se le dit.
On l'a découvert.
On l'a découvert.
Et on le découvre encore.
C'est clair. C'est une émission témoignage pour nous, en fait. Dieu est plein de surprises. Hein. Il est plein de surprises et il est plein de surprises avec vous aussi. Dieu a prévu des choses vraiment spéciales, vraiment extraordinaires pour chacune de nos vies. Et ça nous dépasse bien souvent. Et aujourd'hui, on aura notre rubrique « C'est mon histoire ». C'est l'histoire de Karim aujourd'hui. Karim va nous raconter comment il est passé de l'islam à Jésus, mais surtout comment ça a eu un impact sur toute sa famille. Donc, on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va commencer. On va parler d'appel, de votre appel avec Aurélie dans la pensée du jour.
Lorsqu'on parle de la grandeur de l'appel, l'histoire de Moïse dans la Bible est une histoire que moi, personnellement, je trouve très édifiante et même impressionnante, en fait. Et dans cette histoire, on peut mettre en avant quelques raisons pour lesquelles on n'arrive pas parfois à réaliser que Dieu nous appelle à faire de grandes choses. Et l'une de ces raisons, c'est le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes au lieu d'avoir tout simplement le regard de Dieu. Et c'est avec l'histoire de Moïse que je vais illustrer mes différents propos dans cette pensée. Dans Actes 7, du verset 20 au verset 45, il y a Étienne qui raconte en fait, mais depuis le début, l'histoire des patriarches. Et entre le 20 et le 45, il parle de Moïse. Il dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. » Et ça, c'était avant même qu'il ne reçoive l'appel de Dieu de libérer le peuple d'Israël. On le voyait déjà comme un homme puissant en parole et en œuvre parce qu'il habitait chez Pharaon. Et pourtant, quand Dieu a appelé Moïse plus tard pour lui donner cette mission, c'est Moïse qui répond à Dieu « Ah Seigneur !» Ça, c'est dans Exode 4. « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc là, on voit que Moïse, il se voyait d'une certaine manière en fait. Les gens pouvaient le voir comme « Waouh, Moïse est puissant, il habite dans la maison de Pharaon et tout », mais lui, il était focalisé sur ce qu'il n'avait pas en fait, sur son problème à lui, qui était sa bouche et sa langue embarrassées, comme il le dit. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on réagit nous-mêmes. C'est qu'on est tellement focalisé sur nos faiblesses, sur les choses qu'on ne peut pas faire, qu'on en oublie de regarder à Dieu lui-même. Et Dieu lui dit d'ailleurs, à la suite de cette parole qu'il a dit, Dieu lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd ?» Ou voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ? Donc quelquefois on regarde à nous au lieu de regarder à celui qui nous a appelés. Et chaque fois que vous allez regarder à vous, vous allez réaliser que en fait l'appel est trop grand parce que vous allez vous trouver insignifiant. Mais il faut prendre le temps de regarder à celui-là qui a fait la bouche, celui-là qui défie en fait toutes vos faiblesses. Une autre chose pour laquelle, quelquefois également, on peut se limiter dans notre appel, c'est aussi le regard des autres et les difficultés sur le chemin. Moïse encore, dans Acte 7, c'est Étienne qui raconte, Moïse, il dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne le comprit pas. Donc, on voit qu'il n'était pas compris par ses frères. Et un jour, comme il se battait, il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Hier, à cette parole, Moïse prit la fuite. Et il alla séjourner dans le pays de Madian. Donc, quelquefois, il y a des choses comme ça, on se dit, OK, ben, ce sont mes frères, on va avancer ensemble, j'ai reçu une parole de Dieu et tout. Cette parole, on la reçoit, mais à un moment, on est bloqué. Pourquoi ? Parce que ton frère ne l'a pas compris, parce que tu as rencontré des difficultés sur le chemin. Tu te retrouves en train de fuir, tu te retrouves en train de te limiter, de ne pas regarder à ce que Dieu veut faire avec ta vie, mais vraiment te limiter et de fuir complètement. Et cette fuite a duré 40 ans pour Moïse. Et on sait que voilà, Dieu l'a rencontré par la suite, mais c'est tellement important de ne pas juste se limiter à vos expériences du passé, à vos faiblesses pour accomplir la volonté de Dieu. Et à la fin de son long discours sur les patriarches, lorsqu'il fallait parler de Moïse, il termine en disant « Ce Moïse, on parle bien de celui qui a dit à Dieu qu'il avait la langue embarrassée, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui a été apparu dans le buisson. C'est lui qui fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, dont il est devenu une référence. Et c'est lui qui, lors de l'assemblée du désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Donc voilà comment un homme qui s'est senti embarrassé avait un grand appel sur sa vie, et c'est lui qui a fait toutes ces choses, et c'est vous qui ferez toutes les choses que le Seigneur a prévu que vous fassiez pour sa gloire.
Amen, amen. Merci Aurélie. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ta pensée parce que on se sent souvent comme Moïse, personnellement. Moïse est un peu ma référence, mais dans le avant. Dans le sens où, c'est vrai, des fois, on peut recevoir une parole ou juste Dieu dépose quelque chose dans notre cœur, un appel. On lit la Bible et tout à coup, il y a comme un feu qui se dépose dans nos cœurs et immédiatement, on va avoir tendance à se disqualifier, à se sentir pas à la hauteur ou à se dire, non, moi, c'est pas possible. Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est pour quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas. Regarde qui je suis. Et on a Gédéon dans la Bible, on en a énormément. Et en fait, un jour, je méditais sur tous ces personnages de la Bible qui ont d'abord vraiment refusé leur appel et qui ont même fui devant leur appel. Et je me suis dit que finalement, c'est ce qui les a qualifiés. Parce qu'ils avaient un cœur humble. Malgré la peur, ils ont été obéissants quand même. Et en fait, ce cœur humble qu'ils avaient, qui fait qu'ils ne se mettaient pas en avant, puis ils refusaient l'appel de prime abord, ça leur a permis de durer dans le temps et de s'accrocher à Dieu. Et en fait, ce n'est pas forcément négatif de se dévaloriser de prime abord, mais ce qui est problématique, c'est si on ne marche pas dans l'obéissance et qu'on ne décide pas de rentrer dans ce plan que Dieu... Si Moïse était resté au buisson ardent et qu'il serait resté là et qu'il n'aurait pas dit « Oui, Seigneur, je vais le faire », eh bien, il serait passé complètement à côté de cet appel. Mais malgré sa peur, malgré sa crainte, il a décidé d'obéir et de rentrer dans son appel qui a été, bien sûr, beaucoup plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Ça l'a complètement dépassé, cet appel.
Et l'appel, c'est sûr qu'on peut regarder à nous qui nous dépasse, mais une des choses qui peut nous encourager lorsqu'on trouve que c'est trop lourd, c'est aussi de regarder le fruit de l'appel, l'objectif de l'appel. Moïse, l'objectif de l'appel, c'était pas juste de lui trouver un truc à faire pendant sa vie. C'était pas juste de le défier, de le faire sortir de sa zone de confort. C'était parce qu'il y avait tout un peuple qui attendait un libérateur et Dieu a suscité Moïse. La tâche était grande pour Moïse, c'est sûr. Mais ce qui est motivant, c'est de se dire, mais je vais apporter une solution pour quelqu'un, pour plusieurs personnes. Et si moi, je me sens pas capable et que je regarde à moi, oui, je vais m'arrêter. Mais d'un autre côté, si j'ai ce cœur pour aimer, ce cœur pour aider, ça va quand même me motiver, même si ça ne change rien à la charge. La charge reste énorme, l'appel reste immense, mais on se dit, je vais le faire parce que ça en vaut la peine. Ouais. Et puis, on est prêt dans ces cas-là à sacrifier de l'orgueil, sacrifier de la peur, sacrifier des plans personnels, mais parce que il faut regarder au-delà de nous aussi.
C'est tellement ça, en fait. C'est ce qui rend la chose importante, c'est ce qui nous donne la motivation et ça fait toute la différence, c'est l'objectif en fait. Et c'est ce qui fait que Moïse a finalement obéi.
Oui, c'est ça. Et il a regardé à Dieu parce qu'il savait que Dieu était puissant. Et il a pu regarder à Dieu parce que quand on lit l'histoire de Moïse par la suite, on voit qu'il y a eu cette rencontre dans le buisson Adam, on voit qu'il passait du temps avec Dieu, on voit qu'il a commencé à aimer Dieu et tout. En fait, il a compris que Dieu était puissant pour le faire. Amen. Sinon, il ne serait pas allé 9 fois devant Pharaon pour laisser partir le peuple. Mais il a compris en fait que Dieu était puissant. Et je pense que regarder à Dieu est l'une des clés pour répondre à l'appel. On dit l'appel de Dieu sur ta vie est grand. Ouais. Et c'est l'une des clés parce que c'est Dieu qui est grand. C'est lui qui le fait à travers toi en fait. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu vas comprendre ça, tu vas pouvoir dire oui. Et quand tu dis oui, j'encourage les personnes qui nous écoutent. Si vous voulez vraiment, si vous avez dit oui à Dieu par rapport aux paroles qu'il a reçues, allez-y en fait. commencez quelque chose et sur ce chemin, vous allez voir que l'Esprit de Dieu prend le relais pour vous accompagner. Et quand vous avez dit oui également, soyez prêts à marcher sur l'eau, parce que c'est ça, va devant Pharaon. Mais vous imaginez que pour arriver dans un palais, comme le palais de Pharaon, il faut beaucoup d'étapes. On ne vient pas juste comme ça, on se présente, bonjour Pharaon et tout. Il a dû venir marcher devant des gens, des serviteurs et tout, jusqu'à se présenter, c'est ça, jusqu'à se présenter devant Pharaon. Donc, ça veut dire que quelque part, ce n'était pas évident. Et nous, c'est ce qu'on doit réaliser, c'est que oui, parfois, il va falloir marcher sur l'eau, parfois, il va falloir ne pas comprendre ce que tu fais, mais le faire quand même, parce que ce n'est pas juste sur toi que tu comptes, mais tu comptes sur la grâce de Dieu avec toi. C'est autant de choses qui débloque en fait l'appel dans nos vies. Et tu vas réaliser peut-être après des années, on parlait de tu disais que c'est un peu notre histoire, c'est que c'est après des années que tu réalises que waouh, j'ai fait ça. Mais séance tenante, c'est sûr que parfois tu ne te dis pas ah, mais je suis en train d'accomplir un grand appel et tout, mais parce que tu as juste à cœur d'obéir à Dieu et parce que tu sais qu'il est avec toi, quand tu regardes en arrière, c'est là où tu vas te dire ah, mais il y a quand même ce chemin, il y a cette étape qui a été accomplie et c'est comme ça qu'on marche dans son appel en fait.
Amen, amen. Et c'est là qu'on réalise que ça valait le coup finalement de payer le prix et d'obéir. Notre verset du jour qui est dans Acte 22 au verset 21 nous dit « Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations ». Et encore une fois, c'est des appels des fois qui nous dépassent. Et peut-être que Dieu vous a dit « Allez, va, maintenant fais ça, accomplis cette chose-là, démarre cette association, investis-toi dans ton église locale, fais une structure, fais une entreprise, va faire des études, apprends une nouvelle formation, peu importe ce que Dieu a pu vous dire, ou fais un pas de foi et puis deviens pasteur, évangéliste ou autre, en fonction de ce que Dieu vous a dit, même si ça vous dépasse. » Prenez cette confiance en Dieu, assurez-vous qu'il est avec vous et faites ce pas de foi. Et c'est sûr, Dieu va faire des choses encore plus grandes et va vous surprendre. Et oui, comme Aurélie, tu l'as dit, quand vous regarderez en arrière, vous vous direz, bah, ça valait la peine. Et on va maintenant pouvoir regarder le témoignage de Karim, à quel point justement, lui, son appel a dépassé finalement ce qu'il avait imaginé, puisque ça a touché premièrement toute sa famille. Je vous laisse découvrir son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Nous nous retrouvons pour notre rubrique « C'est mon histoire » et aujourd'hui, on reçoit Karim Kabli. Bonjour Karim.
Bonjour Nadine.
Ça va bien ?
Très bien.
Très content de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Tu viens de partager ton histoire, ton témoignage de vie, de transformation, de conversion. Et juste pour qu'on mette le contexte, Karim, toi, tu as grandi dans une famille musulmane.
Exactement. Alors moi, je viens d'une famille d'origine algérienne. Mm-hmm. Donc mes parents sont arrivés d'Algérie dans les années 80. Ils sont mariés un petit peu là-bas dans un mariage arrangé, comme ça se faisait souvent avec les familles à l'époque. Mmh. Et puis en arrivant en France, il y a eu tout de suite une atmosphère qui a changé, beaucoup de violence, beaucoup de bagarres, de conflits dans la famille. Okay. Et on a grandi un petit peu dans ce climat de violence. Et j'ai vu très rapidement, malgré la religion, malgré la pratique, j'ai vu vraiment ce climat de violence avoir un impact destructeur dans la vie de ma mère, qui a sombré très rapidement dans la dépression. Et puis finalement, elle a fait 3 tentatives de suicide. Et puis finalement, être internée à l'hôpital psychiatrique. J'ai vu ma mère être complètement détruite, sombrer dans la folie. Et moi, là, un peu en tant qu'enfant, je croyais en Dieu, je pratiquais la religion, je priais, selon ce que je connaissais de la religion musulmane. Mais je sentais comme le ciel restait fermé. Il n'y a pas grand-chose qui changeait. On priait, mais on ne voyait rien changer. Et puis je suis arrivé un peu à une conclusion, finalement, que Dieu ne répond pas à nos prières, que Dieu ne nous entend pas. Et puis, vers l'âge de 15 ans, j'ai finalement, avec des mauvaises fréquentations, plutôt sombré dans la drogue et dans l'alcool. Et puis, je suis très rapidement devenu dépendant. Ouais. L'âge de 16 ans, 17 ans, dépendant à la drogue, dépendant à l'alcool. Et ma vie était complètement enchaînée jusqu'à à peu près l'âge de 18 ans où un de mes meilleurs amis est parti en Angleterre pour trouver du travail et puis reconstruire un peu sa vie, ça m'a donné envie de suivre son chemin, de partir en Angleterre, reconstruire ma vie, repartir à zéro.
Et finalement, et là, tu y allais avec l'impression que par toi-même, tu allais arriver à t'en sortir. Tu voulais t'en sortir.
Exactement, c'était mon but. Je me suis dit, j'ai besoin que ma vie elle change. Je suis arrivé à un point de ma vie où tout était devenu compliqué, la dépendance et plein de choses. Et j'avais qu'une envie, c'était de reconstruire ma vie, de repartir à zéro. Et je prends mes affaires, je vais en Angleterre et je pense repartir à zéro, mais finalement, tous les problèmes sont restés à l'intérieur, c'était ouais. toujours là. Ouais. Et très rapidement, en Angleterre, j'ai replongé dans la drogue, replongé dans l'alcool, et puis repris tous les travers que je pensais laisser derrière moi. Et puis, je me suis retrouvé à la rue, en Angleterre, à Londres, à dormir dans la rue, à être dans une forme d'errance destructrice. Mmh. Et puis, ma vie a été comme ça pendant quelques mois, jusqu'au moment où je retourne en France. Et en retournant en France, j'étais complètement détruit intérieurement. Ouais. Et j'attendais plus rien de la vie, j'avais plus aucun espoir. Et puis finalement, j'ai sombré complètement dans la délinquance, dans la violence, sans limite, sans frein.
Ouais.
Où à cette époque-là, mon meilleur ami s'est retrouvé en prison. Il a pris 9 ans de prison, condamné par la justice. Et à ce moment-là, moi, j'ai été arrêté par un rêve. Mm-hmm. Et dans ce rêve, je me suis vu partir en enfer. Mm-hmm. Moi, je ne croyais plus ni au paradis, ni à l'enfer, ni en Dieu, ni à quoi que ce soit à ce moment-là. Mais ce rêve m'a complètement bouleversé, où j'ai vu des scènes de ma vie défiler les unes après les autres. Et je pensais que l'enfer était quelque chose d'imaginaire, mais dans ce rêve, j'ai compris que l'enfer était réel. Et j'ai été vraiment saisi par un sentiment de terreur et d'angoisse, mm-hmm. en comprenant que finalement, quand tu es vivant, il y a toujours un espoir de changer. Ouais. Mais quand tu passes de l'autre côté, c'est terminé, tu ne peux plus revenir en arrière. Ouais. Et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit de ce rêve, complètement tourmenté, angoissé par ce que j'ai vu dans ce rêve. Et j'ai compris qu'il fallait que ma vie, elle change, que je ne mm-hmm. pouvais plus continuer comme ça. Mm-hmm. Et j'ai compris que finalement, si je vais en enfer, le seul qui peut me sortir de là, c'est Dieu. Mm-hmm. Alors, le seul contact que j'avais avec la religion, c'était finalement la religion de mes parents, mm-hmm. c'était la tradition familiale. Alors, j'ai commencé à reprendre un petit peu mes recherches dans la religion musulmane.
Ouais.
Mais les semaines ont passé, les mois ont passé, et je sentais comme un vide spirituel demeurer en moi. Et j'ai compris que finalement, je n'avais pas besoin d'une religion, mais j'avais besoin d'une transformation. Mmh. Et que ce que j'avais besoin de vivre, c'était vraiment une délivrance intérieure, pas seulement des pratiques ou des règles à respecter, mais vraiment une transformation intérieure. Et j'ai compris que finalement, la religion, elle te donne un cadre et des règles, mais elle ne transforme pas vraiment ton état spirituel ouais. intérieur. Et puis, les semaines ont passé, les mois ont passé, et ma grande sœur s'est mariée avec un chrétien. Elle a rencontré un chrétien, ils se sont mariés.
D'accord.
Et puis, chez ma sœur, pour l'anniversaire de mon neveu, j'ai rencontré un frère de leur église mm-hmm. qui, pour la première fois, m'a parlé de l'Évangile, okay. m'a parlé de Jésus. Et puis, on a beaucoup échangé. Moi, je confrontais un petit peu en comparaison par rapport à l'islam mm-hmm. que je connaissais. Et cet homme n'est pas rentré dans des discussions, mais m'a juste partagé comment Jésus a transformé sa vie.
Ouais.
Et ça a suscité vraiment de l'espoir en moi. Je me suis dit, si Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un comme ça, mm-hmm. moi aussi, j'ai besoin que ma vie, elle change de mm-hmm. cette façon. Mm-hmm. Et on a beaucoup échangé. Il m'a offert une Bible
D'accord.
que j'ai laissée chez moi pendant quelques temps,
oui.
sans pensant ne jamais l'ouvrir. Et puis, les jours ont passé, les semaines ont passé comme ça, d'échec en échec, de dépendance en dépendance. Un jour, je suis arrivé un peu au bout de mes capacités et j'ai crié à Dieu. J'étais sur la route qui me ramenait chez moi. J'ai fait une prière simple. J'ai dit... Dieu, si tu existes, moi, j'ai besoin que ma vie, elle change. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est l'islam ou si c'est le christianisme. J'ai simplement décidé de laisser tout derrière moi, tous les bagages culturels qu'on m'avait transmis depuis mon enfance. Et j'ai dit, Dieu, si tu existes, je veux te connaître en vérité.
Ouais.
Et quand j'ai fait cette prière, mon regard s'est arrêté sur un panneau publicitaire. C'était marqué, si on ne cherche pas, on ne trouve pas.
Mm.
Et quand j'ai vu ce panneau publicitaire, j'ai eu une profonde conviction que c'était la réponse de Dieu à ma prière. Et je suis rentré chez moi. Et pour la première fois de ma vie, 21 ans, dans ma chambre, tout seul, je n'avais jamais mis les pieds dans une église, jamais rencontré ni de prêtre ni de pasteur. Mm-hmm. J'ouvre les évangiles et je pensais trouver la religion chrétienne, mais j'ai trouvé l'histoire de Jésus-Christ.
Mm-hmm.
Et je pensais trouver une histoire de religion et des règles à respecter, mais j'ai découvert l'histoire la plus merveilleuse que j'avais jamais lue de toute ma vie. C'est ce passage où Jésus dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés,
oui.
je suis venu libérer les captifs, renvoyer libres ceux qui sont opprimés. » Et à cet instant, dans ma chambre, j'ai compris que Jésus, il était venu exactement pour des gens comme moi,
mm-hmm.
pour guérir les blessures intérieures, pour libérer de toutes les chaînes qui me tenaient dans la dépendance. Et pendant que j'étais en train de lire les évangiles, complètement captivé par la personne du Christ, mm-hmm. pendant des heures et des heures, je sentais comme sa présence envahir ma chambre mm-hmm. progressivement. Et plus la présence de Dieu était là dans ma chambre, plus je me suis senti sale, mm. comme si le sentiment de mon péché, l'état de mon cœur... était mis devant mes yeux.
Mm-hmm.
Et j'ai compris que devant les gens, on peut faire semblant, on peut mettre un masque, on peut donner une image de quelqu'un qu'on n'est pas.
Mm.
Mais devant Dieu, c'est comme si notre cœur, il est vraiment dévoilé à la lumière.
Mm.
Et ce moment-là, je suis tombé dans la repentance, vraiment un brisement intérieur. J'ai commencé à pleurer sur l'état de ma vie, sur tous les échecs de ma vie, sur les dépendances, sur la destruction et toute la vie que j'ai menée. Mmh. Et alors que j'étais en train de pleurer dans la présence de Dieu, j'ai senti son amour me couvrir. Mmh. Et j'ai compris que malgré ma saleté, malgré mon péché, eh ben, j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait tel que j'étais et qui était venu pour me sauver, pour me libérer. Mmh. Et ce jour-là, j'ai senti comme une profonde transformation dans mon cœur. J'ai senti une paix commencer à m'envahir que j'avais jamais ressentie auparavant. Et j'ai compris que ce jour-là, je venais de naître de nouveau, tout seul dans ma chambre. Et j'ai vécu vraiment cette présence de Dieu qui s'est gravée dans mon cœur, qui s'est imprimée en moi et qui m'a fait comprendre que depuis ce jour-là, ma vie ne serait plus jamais la même. Quelque chose avait commencé, c'était en octobre 2007. Mm-hmm. Et depuis ce moment-là, ma vie a commencé à changer radicalement. Et puis un jour, je décide d'aller à l'église pour faire une surprise à ma sœur et aux frères qui m'avaient partagé l'évangile. Ouais. Et puis j'arrive dans cette église et j'étais un peu méfiant de ce que j'allais découvrir. Je ne connaissais pas du tout les églises protestantes, évangéliques. J'étais un petit peu avec du recul. Mm-hmm. Et je regarde un petit peu les gens de loin avec un petit peu de jugement. Et je vois tous ces gens commencer à chanter, commencer à prier. Au départ, je pensais que tous les chrétiens étaient que des gens parfaits, qui avaient une belle vie, qui étaient des gens qui avaient tout réussi. Et moi, j'étais un gars qui était complètement brisé par la vie. Ouais. Et quand j'arrive dans ce lieu, je vois les gens chanter. Et je comprends que finalement, ils sont tous des gens comme moi. Ouais. Tous des gens brisés par la vie, qui avaient été reconstruits par la grâce et l'amour de Dieu, et qui avaient tous vécu un peu les mêmes expériences que moi. Mmh. Et dans cette église, j'ai senti la même présence de Jésus que j'avais senti dans ma chambre, et j'ai compris que Dieu était présent aussi dans cette église. Et cette église est devenue ma famille, c'est le lieu où j'étais vraiment intérieurement guéri, reconstruit, restauré. Et pendant un an et demi, j'allais à l'église fidèlement, mais toujours dépendant, toujours enchaîné par la drogue, par l'alcool, par toutes sortes de liens. Ouais. Et j'étais vraiment... désespéré de cet état de dépendance. Et puis un jour, j'ai crié à Dieu, j'ai décidé de faire un jeûne. J'ai pris 5 jours de jeûne et j'ai commencé à crier à Dieu pour la délivrance. Et je disais, Seigneur, je sais que tu es le chemin, la vérité, la vie, je veux te suivre. Mais tu vois combien je suis lié, combien je suis dépendant. Et puis, un dimanche, le pasteur fait une annonce sur une conférence qui avait lieu en Suisse. Et quand je vais dans cette conférence, j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu allait accomplir un miracle dans ma vie ce jour-là. Mmh. Alors, quand j'arrive dans cette conférence, avant de rentrer dans ce lieu, je prends le paquet de cigarettes que j'avais dans ma poche et je le jette à la poubelle en disant à Dieu, aujourd'hui, il faut que tu fasses un miracle. Mmh. Et je rentre dans cette église et je sens la présence de Dieu tellement forte dans cette église comme rarement j'ai senti. Et tous les chants, c'est comme si il produisait quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Mmh. Et ce jour-là, au moment de l'appel, je m'avance, c'était une réunion de jeunesse, et je m'avance devant, et alors qu'on prie, ils prient pour les jeunes, et quand on prie pour moi, je sens un feu descendre sur moi, comme m'embraser de la tête aux pieds. Je sens un feu intérieur et à l'extérieur, et je sens à l'intérieur des chaînes se briser, des choses qui étaient vraiment enchaînées à l'intérieur, et comme des chaînes se brisaient complètement, et j'ai vécu une délivrance et une libération radicale à ce moment-là. J'ai été délivré de l'alcool, délivré de la drogue, délivré de toutes mes dépendances à ce moment-là, et ma vie a été complètement transformée. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même.
Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit cette journée-là.
Exactement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit.
Et Dieu t'a amené à un autre niveau, et on le disait même avant l'émission, c'est que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et toi, ça a été ça qui a scellé un petit peu toute cette démarche par rapport à la nouvelle vie que tu vivais, la transformation que tu vivais. Et Dieu est tellement bon parce que Dieu t'a transformé toi, mais il s'est aussi occupé de ta maison, de tes frères, de ta famille.
Exactement. C'est vrai que pendant toutes ces années de conversion, je me battais pour me libérer de mes liens par moi-même. Mm-hmm. Et j'ai compris que finalement, tout ce que j'avais besoin, c'était vraiment la puissance du Saint-Esprit. Et que la vie chrétienne, finalement, dépend de la puissance du Saint-Esprit. Mm-hmm. Et quand je suis rentré chez moi après ce miracle de délivrance et de baptême du Saint-Esprit, ma mère, qui m'a connu dans la dépendance, dans la dépression, dans la violence, dans la délinquance, lorsqu'elle m'a vu arriver, elle m'a regardé de la tête aux pieds. Et elle m'a dit, mais Karim, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus le même. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui a changé. Et je lui ai dit, maman, c'est l'amour de Dieu qui m'a transformé. C'est la puissance de Jésus qui m'a libéré. Et quand elle a entendu ça, elle était un peu sceptique. Elle s'est dit, mais nous, on est musulmans, ça, c'est pas pour nous. Mm-hmm. Et puis, je lui ai partagé ce que j'avais vécu. Et quelques temps après, toute seule dans sa chambre, elle s'est mise à genoux. Elle a fait une prière. Ma mère était dans la dépression depuis plusieurs années, presque une dizaine d'années. Elle prenait énormément de médicaments. Et elle a fait une prière. Elle a dit... Dieu, Seigneur Jésus, si c'est toi qui as libéré mon fils, si tu me libères, moi aussi je croirai en toi. Mm. Et ma mère a vécu un miracle vraiment dans la présence de Dieu où elle a été libérée de la dépression, libérée de tout ce qui la tenait. Mm. C'est une histoire un peu longue à raconter, mais peut-être qu'un jour elle aura l'occasion de venir le raconter ici. Mais en tout cas, elle a été totalement transformée. Sa vie a été radicalement changée. Aujourd'hui, elle partage sa foi avec les femmes qui l'entourent. Mm-hmm. Et Dieu a fait des miracles aussi dans ma famille. Mon frère s'est converti, mes sœurs se sont converties. Et Dieu est vraiment un Dieu fidèle. Ah. On a vu vraiment comment Dieu est capable de répondre à la prière et de manifester sa grâce quand on le cherche.
Amen. Un tellement beau témoignage, Karim. Je te remercie énormément d'être venu le partager. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Waouh! Ah, c'est magnifique, hein. Magnifique. Franchement.
Super témoignage, vraiment.
Vraiment, vraiment. Comment Dieu peut agir dans la vie. Et ça nous dépasse vraiment. On veut vraiment vous encourager à croire que Dieu a un appel sur votre vie qui peut vous dépasser vraiment, qui peut aller au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer, de ce que vous avez planifié, prévu. Vraiment, soyez encouragés par le témoignage de Karim. Et puis, soyez encouragés à obéir à Dieu, à vous lancer et à prendre courage, en fait, et à le suivre. Et je vous rappelle qu'on est dans une campagne de dons actuellement, les 5000 Summer. Je profite de l'occasion pour remercier chacun d'entre vous qui avez participé déjà à cette campagne de dons. Et si vous avez à cœur de participer en donnant 1000 euros ou plus pour faire partie de ces 5000 Summer, vous pouvez simplement aller sur emcitv.com/5000 pour partager, simplement pour participer à tous ces beaux projets que Dieu nous a donnés. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end dans la présence de Dieu et à lundi. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.